chers amis, je suis heureux de revoir les uns et les autres. Plusieurs reviennent de vacances, donc petit à petit, nous nous retrouvons et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Alors, comme chaque dimanche, nous venons ici pour adorer notre Dieu. Nous voulons le faire parce que nous croyons qu'il est le seul vrai Dieu. Nous voulons le faire parce que nous savons que c'est lui qui nous a sauvés et qu'il est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. J'aimerais nous encourager ce matin de la part du Seigneur, à, puisque c'est pour cela que nous sommes là, à honorer notre Seigneur, le Dieu trois fois saint, non pas comme nous le voulons, mais comme lui il veut. Puisque le Seigneur a laissé justement dans sa parole ses recommandations, pour que nous puissions l'honorer et pour qu'il puisse agréer notre adoration. Et le texte que nous allons voir ce matin nous rappelle que si nous ne faisons pas les choses comme Dieu le demande, alors ça ne va pas. Donc le Seigneur attend de nous que nous respections ses recommandations, ses commandements, que nous fassions les choses aussi bien dans notre vie personnelle que dans notre vie collective en tant qu'Église, comme il le demande. Et c'est comme cela que nous honorons notre Seigneur. Et nous avons, dans le temps passé, parlé donc du roi David. David, que Dieu a oint pour être le futur roi d'Israël à la place de Saül, qui justement désobéissait au commandement que Dieu lui avait donné. Donc Dieu, il a dit qu'il s'est choisi un homme selon son cœur. Et il a envoyé Samuel chez Isaïe, le père de David. Et lorsque David, le jeune berger, est arrivé dans la pièce, le Seigneur a dit à Samuel, c'est lui. Alors tout en sachant qu'il était loin de l'Éternel, David, à plusieurs reprises, parce que comme Saül était toujours roi, il a dit qu'il n'était pas question, même si Saül voulait le tuer, lui, pas question pour lui de toucher à loin de l'Éternel. Et ce qui est remarquable dans cela, c'est de voir que David, il savait qu'il allait être le futur roi d'Israël, mais il n'a pas cherché à s'accaparer cette place. Dieu l'a choisi pour être roi, mais il a attendu le moment voulu par Dieu pour accéder à cette fonction. Et lorsque nous lisons plusieurs passages, notamment dans Samuel, 2 Samuel, chapitre 2 ou 5, on voit que à chaque fois, c'est le peuple, soit à Hébron ou soit à Jérusalem, qui vient et pour lui dire, voilà, Dieu a voulu que tu sois notre roi, et bien sois notre roi. Et ça, c'est très important. Et quelques temps après, le roi David, une fois qu'il est devenu roi de tout Israël, donc à Jérusalem, il a non seulement voulu faire de Jérusalem la capitale politique, là où siégeait le roi, mais il voulait aussi que Jérusalem soit la capitale religieuse. Et donc il a dit, puisque l'arche de l'Alliance n'était pas à Jérusalem, il a dit, voilà, il va faire venir l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Donc là, nous allons voir aujourd'hui comment ça s'est passé, comment s'est déroulé le transport de l'arche jusqu'à Jérusalem. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans 2 Samuel, chapitre 6. Et nous allons lire ce chapitre. 2 Samuel, chapitre 6. Donc faisons la lecture. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérèth-Uzza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. On vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Voilà, jusque-là, la lecture. Alors, suite à la lecture de ce passage, j'ai presque envie de vous laisser là, et puis vous laisser cogiter ce qu'on a lu. Et vous me direz aussi, parce que je pense que comme vous, il y a une chose qui est frappante, et peut-être que cette chose vous a interpellé, c'est la sévérité de Dieu. Sévérité de Dieu à l'encontre d'Uza, qui a voulu tenir l'arche pour l'empêcher de tomber. Et le verset 7 dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Et beaucoup pourraient dire, mais ah ouais, Dieu, il est dur. Alors qu'il a voulu faire une bonne action, il a voulu empêcher à l'arche de tomber et Dieu qui frappe cet homme qui a fait une bonne chose. Et il peut y avoir donc de l'incompréhension par rapport à ça. Et justement, David, il est là face à... Il est troublé à cause de tout ce qui se passe. Et comme David, on peut être irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tel châtiment. Le verset 8, David était irrité à cause de cela. On peut même avoir de la peur, de dire, voilà, waouh, c'est Dieu, il a frappé comme ça. Est-ce qu'on peut servir un tel Dieu? Ou bien David, dans les versets suivants, on voit qu'il il décide même de renoncer à faire... venir l'arche de l'Éternel à Jérusalem et il a dit ben, emmenez l'arche chez Obed-Edom. Donc ce qu'il avait voulu faire, qui partait de bons sentiments au départ, de faire venir l'arche de l'Éternel qui symbolise la présence de Dieu, faire venir l'arche à Jérusalem, finalement ça s'est arrêté net parce qu'il y a eu cet événement, la mort d'Uza, parce qu'il a voulu, entre guillemets, tout simplement, protéger cette arche qui allait tomber. Alors comment pouvons-nous réagir lorsqu'il y a des choses dans notre vie qui se passent et on voit comme si c'est, oui, c'est de la faute de Dieu et que Dieu, il est injuste, pourquoi il permet telle ou telle chose? Et le texte nous dit que l'arche est restée pendant 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Et l'Éternel a béni cet homme et toute sa maison. Donc oui, lorsque l'on ne comprend pas ce qui nous arrive, à nous ou à un proche ou un frère ou une sœur, lorsqu'il y a une catastrophe qui s'abat sur la terre, ou comme on parlait de sécheresse ou bien de déluge, etc., ce sont ces sentiments qui peuvent nous submerger aussi. La colère, l'irritation face à ce qui nous paraît comme une injustice. Ça peut être cette peur terrifiante vis-à-vis de Dieu, et puis on dit, mais est-ce qu'on peut servir un tel Dieu? Ça peut être aussi le questionnement sur le bien fondé de ce qu'on a voulu faire. On est parti de bons sentiments, et puis finalement, c'est la catastrophe. Est-ce qu'on aurait dû faire ça, etc.? Et puis, on renonce, on dit, bon, on laisse tomber, et puis c'est fini. Alors, pourquoi une telle réaction de la part de Dieu? Pourquoi a-t-il frappé Uza alors que cet homme a voulu faire une bonne chose? Pourquoi une telle sévérité? Alors, est-ce qu'il y a de l'injustice en Dieu? Non! Dieu n'est pas injuste. Est-ce que Dieu, il aime les hommes? Oui. Dieu, nous savons, il est amour, il est juste, il est saint, il est vrai, etc., etc. Il y a un Dieu souverain. Et Dieu, il a frappé Uzza parce que, donc on l'a dit, Uzza a touché l'arche pour l'empêcher de tomber. Il avait, dans un autre passage, il avait frappé les habitants de Beth-Shemesh parce que ses habitants avaient regardé l'arche. Il les a frappés de plusieurs mots. Et le texte de 1 Samuel 6 nous dit que le peuple fut dans une grande désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Et les gens de Beth-Shemesh dirent, qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Qui peut subsister? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Dans 1 Samuel 6, verset 20. Le Dieu d'Israël est un Dieu saint, et c'est le même que nous servons, que nous adorons, que nous honorons. Alors, pourquoi une telle réaction de la part de Dieu? Pourquoi une telle sévérité? Parce qu'il est un Dieu saint. Parce que Dieu, l'Éternel, est un Dieu saint, il est le Dieu trois fois saint. Et à cause de sa sainteté, il a donné des lois à Moïse. Il a donné des règles, il a donné des commandements bien précis à Moïse concernant l'arche, qui représente la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et ces recommandations devaient être respectées scrupuleusement par le peuple, parce qu'il y avait cette réaction de dire, voilà, si quelqu'un... qui touche alors que la personne ne devrait pas le faire, mais c'est la mort. C'est la sentence, c'est la mort. Donc, Dieu, il avait donné ses règles pour le transport de l'arche également. Et c'est là le problème. C'est que pour transporter l'arche, David et les autres du peuple, ils n'ont pas respecté les recommandations que Dieu avait données pour transporter l'arche. David, il a mis l'arche sur un char poussé par les bœufs. Il a fait comme ont fait les Philistins plusieurs années, une soixantaine d'années avant. Les Philistins, parce qu'il y a eu dans 1 Samuel, on voit ça, à un moment, ils ont pris l'arche, après, il y avait la guerre entre Israël et eux, Israël avait l'arche, puis les Philistins l'ont pris, et puis ils ont mis l'arche dans le temple où se trouvait leur dieu Dagon. Et à chaque jour, ils voyaient que Dagon était tombé. Et donc, avec toutes sortes de plaies qui leur tombaient dessus, alors ils disaient, on ne peut pas garder l'arche avec nous. Alors, ils ont vu avec leurs hommes, et ils ont dit, voilà, on va renvoyer l'arche. Et ils l'ont mis sur un char... et poussé, tiré par des vaches. Donc David, au lieu de se conformer aux recommandations que Dieu a données, prescrites par Moïse, David et ceux qui étaient avec lui ont imité la manière de faire des Philistins. Donc dans Nombre chapitre 4, Dieu donc a donné ses instructions, que c'était Aaron et ses fils qui devaient donc démonter, donc les sacrificateurs qui devaient démonter l'arche, et les Lévites, les Kéatites, les Guershomites, qui pouvaient les porter, voilà, les porter et transporter l'arche. Et David n'a pas respecté ses instructions. Dans Nombre 4, il dit que... mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions des porteurs. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Donc c'était la mort, le fait de voir et le fait de toucher. Donc si Dieu a frappé Uzza à cause de sa faute, c'est parce que David a commis aussi une faute, et même plusieurs fautes. puisqu'il n'a pas respecté les instructions que Dieu avait données à Moïse pour le transport de l'arche de l'Alliance. Donc, 3 mois après cette tragédie, David, qui ne voulait plus faire monter l'arche à Jérusalem, décide de le faire finalement, parce qu'il a entendu que, tiens, Dieu, il a béni Obed-Edom, bon, on va le faire venir. Alors la question, c'est pourquoi, à la suite, il a réussi. Alors, pendant ces 3 mois, certainement, parce qu'on va le voir, David a réfléchi, dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et il est allé revoir dans la loi de l'Éternel les prescriptions qui étaient données par rapport à cela. Et c'est dans le livre des Chroniques, dans 1 Chronique chapitre 15. Alors on peut lire ce passage, le texte qui est parallèle. Alors dans 2 Samuel, il n'y a pas tous les détails. Mais dans 1 Chronique chapitre 15, c'est ce qui est expliqué. Alors, là, il faudrait lire tout le chapitre, mais on va lire les 15 premiers versets. 1 Chronique, chapitre 15, versets 1 à 15. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors, David dit, « L'arche de Dieu ne doit pas être portée par les Lévites. » L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, pardon. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, les fils de Kehath, Uriel, le chef de ses frères, le chef et ses frères, 120. Des fils de Merari, Asaja, le chef et ses frères, 220. Des fils de Gershom, Joël, le chef et ses frères, 130. Des fils d'Elitsaphan, Shemaja, le chef et ses frères, 200. Des fils d'Hébron, Eliel, le chef et ses frères, 80. Des fils d'Uziel, Amidadab, le chef et ses frères, 112. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiathar, et les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Shemaja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, « Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Donc les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Voilà. Vous voyez, donc pendant ces 3 mois, David est retourné à la source, à la parole de Dieu, pour voir quelles étaient les instructions que Dieu avait données pour le transport de l'arche. Il reconnaît que si Dieu avait frappé Uzza, c'était parce qu'il n'avait pas cherché selon la loi, voir comment ce qu'il fallait faire. La première fois, David a voulu faire monter l'arche à la manière des Philistins, sur un char tiré par 2 vaches ou des bœufs, et non comme Dieu avait ordonné, porté par les Lévites à l'aide des barres prévues pour cela. Et lorsqu'il décide de faire monter l'arche pour la 2e fois, David, donc là, on voit qu'il respecte scrupuleusement la loi de l'Éternel et tout se passe très bien, dans la joie et dans la bonne humeur. Donc nous pouvons être animés de bonnes intentions pour vouloir honorer Dieu, mais n'oublions pas que nous servons le Dieu 3 fois saint qui a fixé lui-même les règles à observer. Et ça vaut pour le culte Et ça vaut pour notre vie personnelle, etc. On ne fait pas comme on veut. Nous ne pouvons pas chercher à honorer notre Dieu selon nos convenances personnelles, et encore moins à la manière du monde, comme l'a fait David qui a voulu imiter les Philistins. Ce texte nous encourage à chercher à honorer notre Dieu selon ses prescriptions à lui et non selon notre propre volonté. Et ces prescriptions, nous les trouvons dans sa parole. Alors, oui, honorons notre Dieu en respectant ses règles, et c'est ce que j'aimerais souligner dans les sept premiers versets de Samuel 6. Donc, les règles fixées par Dieu pour le transport de l'arche étaient simples. L'arche devait être portée par les Lévites ou les sacrificateurs. D'après Josué chapitre 3, on voit ça. Et pendant plus de 60 ans, l'arche avait été négligée par le peuple d'Israël, plus de 60 ans. Du temps de Saül, il est fait mention de l'arche une fois. Donc pendant plus de 60 ans, l'arche avait été négligée. Donc c'est Dieu qui avait été négligé par le peuple. Et pendant tout ce temps écoulé, peut-être que voilà, le peuple a oublié quelles étaient les règles fixées par Dieu. Parce qu'on a négligé Dieu, on ne sait plus ce qu'il veut, comment il veut que les choses se passent. Parce qu'on l'a mis de côté. Et la méthode utilisée par David et par son peuple était celle des Philistins. Donc, ils ont été influencés par la manière de faire des Philistins au lieu de faire comme Dieu le demandait de faire dans sa parole. Donc, comme je le disais, l'arche représente la présence de Dieu parmi le peuple. Lui, le Dieu 3x5, qui doit être honoré et adoré. Alors, depuis combien de temps l'avons-nous mis de côté? Ou depuis combien de temps l'avez-vous mis de côté dans votre vie? Et si il n'est pas, parce que l'arche était au centre là, s'il n'est pas au centre, si Dieu n'est pas au centre de votre vie, si la parole de Dieu n'est pas un élément important pour vous, pour votre communion avec lui, alors forcément vous oubliez quelles sont ses prescriptions. Et lorsqu'il faut faire les choses, même si vous partez de bons sentiments et de dire « oui, je vais faire ça pour Dieu », mais si ce n'est pas selon sa parole, eh bien, vous êtes complètement à côté. Et Dieu, il ne l'agrée pas. L'autre chose, c'est que donc la première des choses, c'est de respecter les règles voulues par Dieu. Et donc, voyons comment Dieu veut que les choses se passent. L'autre chose, c'est pour honorer notre Dieu, comme il le mérite et comme il le souhaite, il faut accepter aussi son jugement. David, au départ, il s'est mis en colère contre Dieu. Il ne voulait plus de l'arche de l'Alliance chez lui, à Jérusalem. Il ne comprenait pas les raisons de ce jugement. Et dans un premier temps, son attitude était une attitude de rejet de Dieu à cause de son incompréhension. Mais voulant être au bénéfice de la grâce de Dieu et de ses bénédictions, il a cherché dans la loi de l'Éternel quelles étaient les raisons pour lesquelles Dieu a frappé Uzza. Et il a vu et il a organisé les choses comme Dieu voulait. Et donc, là aussi, c'est un enseignement pour nous. Et parfois, il y a des choses qui nous arrivent. La Bible nous dit clairement que c'est pas... Il ne faut pas être superstitieux. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, oui, c'est Dieu qui me frappe. Ce n'est pas ça du tout. L'épreuve fait partie de la vie. Et il faut passer par l'épreuve pour grandir. Ça, c'est vrai. Mais il y a certaines épreuves qui nous arrivent, qui sont les conséquences de nos péchés. Il y a certaines épreuves, des choses qui arrivent, qui sont liées à cela. Après, c'est à chacun d'examiner son cœur, à chacun d'examiner, de dire, voilà, ma vie avec Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis selon... Ma vie est conforme à la parole de Dieu? Et si on sait que, oui, bon, j'ai rien à me reprocher, il y a cette épreuve, on donne souvent l'exemple de Job, parce que c'est l'exemple typique, mais il y a l'exemple de Jésus-Christ aussi, qui n'a jamais commis de péché, il a connu l'épreuve. Voilà. Et s'il faut passer par cette... par cette épreuve, on sait que Dieu, il est là avec nous et il va nous accompagner. Mais il y a aussi cette réalité, c'est que si nous ne... Dieu peut, il fait ce qu'il veut, il peut nous éprouver parce que nous avons désobéi, pour nous ramener sur le droit chemin, pour nous ramener à revenir sur sa parole. Et donc, ne pas le dire, ce serait mentir. Donc, si nous voulons honorer notre Seigneur, nous devons non seulement respecter ses règles, mais honorer Dieu en disant, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me montrer à travers cela ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Et montre-moi, éclaire-moi, et puis moi, je vais faire ta volonté. Et le Seigneur nous dit, mais voilà, il met le doigt là où il y a eu le problème, et puis on le confesse à Dieu. Oui, je le reconnais, Seigneur, je te demande pardon, moi je veux conformer ma vie à ta parole. Et puis après, le Seigneur accepter son jugement, accepter sa souveraineté, et lui dire, et quoi aussi en sa miséricorde, en sa compassion et en sa grâce. Accepter donc le jugement de Dieu, c'est reconnaître son tort. David, lui, il a reconnu son tort. Il a reconnu qu'il n'a pas fait les choses selon les règles que Dieu avait définies. Mais c'est aussi revenir à la source, revenir à la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait pendant ces 3 mois où il a dû réfléchir. Et la troisième chose que j'aimerais souligner, c'est que David a cherché à honorer Dieu en s'humiliant. Il s'est humilié complètement, au point même qu'il était ridicule. Même sa femme Michal l'a méprisé parce qu'il dansait un peu n'importe comment. Et pour elle, il était ridicule, David. Il était ridicule. Et David, lui, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. Il dit, je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Donc là, il n'a pas regardé aux gens autour de lui. Il n'a pas dit, moi je suis quand même le roi David, je dois quand même avoir une certaine attitude. Et puis voilà, les gens me regardent. Non, pour lui, c'était une joie débordante et il a laissé exprimer la joie de son cœur. Et parce que ce qui était important pour lui, c'est que l'arche de l'Éternel rentre à Jérusalem. Et même si c'était une attitude d'après Michal, méprisante. Voilà. Donc là, on voit l'importance de l'humilité. Et David, il a fait preuve d'humilité lorsqu'il s'est soumis aussi à la parole. Il a reconnu son tort et il a cherché à arranger les choses et organiser ce transport comme l'Éternel le lui a demandé. Donc, frères et sœurs, nous sommes... le Seigneur a fait de nous ses enfants. Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père, la Bible nous dit. L'arche qui représente la présence de Dieu parmi son peuple, c'est une image de notre Seigneur Jésus-Christ. L'arche était composée, c'était un coffre en bois qui était recouvert d'or. Et à l'intérieur, il y avait la cruche avec la manne. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et puis, il y avait les tables de la loi. Et tout cela, c'est une image du Seigneur Jésus-Christ. L'arche qui représente la présence de Dieu, c'est dans Jean, il est dit que Jésus-Christ, la parole de Dieu a été faite chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Jésus, la présence de Jésus, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. L'arche qui était en bois, ça symbolise son humanité. Recouvert d'or, ça symbolise aussi sa divinité. Et cette cruche avec la manne, Jésus dit, je suis le pain de vie. Hein, donc, il y a toute cette discussion avec les pharisiens pour dire, ouais, ils ont mangé la manne, mais Jésus dit, mais c'est moi, je suis le pain de vie. Après, il est la parole de Dieu aussi. Et puis, cette verge, c'est, qui était complètement sec et que Dieu a fait fleurir, il a dit, ben, je suis la résurrection et la vie. Donc, l'arche présent au milieu du peuple d'Israël, c'est, symbolise la présence de Jésus-Christ au milieu de son peuple, la présence de Jésus-Christ aussi en nous. Donc, le Seigneur, je veux faire ce parallèle pour dire, en fait, en tant que chrétien, Dieu, il a voulu que, en fait, les Lévites portent l'arche et que c'était l'arche qui devait devancer le peuple et le peuple devait suivre l'arche. Et si on fait ce parallèle, Jésus-Christ qui est symbolisé là, nous en tant que chrétiens, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Les sacrificateurs faisaient partie, c'était des Lévites. Nous, ce qu'on doit faire, c'est porter bien haut la personne de Jésus-Christ. Ce qu'on doit faire, c'est honorer le Seigneur. Ce qu'on doit faire, c'est le porter bien haut pour que le monde voit que c'est lui, le Seigneur. C'est vers lui qu'il faut se tourner. Et donc, dans un texte, il dit que l'arche, dans un chronique, il est dit que l'arche, elle était pesante. Mais le texte nous dit que ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Avec l'assistance de Dieu. Oui, être chrétien, ce n'est pas toujours facile. Le Seigneur nous dit, chargez-vous de votre croix. Hein, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et porter la personne de Jésus-Christ, c'est être prêt à porter le Seigneur, à porter sa parole, à porter cet évangile et être dans ce monde difficile. Et on doit toujours avoir à cœur de pouvoir porter bien haut le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous le faisons lorsque nous cherchons à honorer notre Seigneur, à conformer nos vies à sa parole, à respecter les instructions qu'il nous donne pour notre vie personnelle, notre vie de chaque jour, mais lorsque nous nous retrouvons, l'organisation du culte, ce qui est fait pour l'adoration. Alors si nous voulons honorer notre Seigneur et que nous voulons qu'il agrée, c'est pas de voir est-ce que à droite et à gauche comment ça se passe et puis dire je veux faire comme les autres, voir comment ça se passe, là c'est mieux ou pas. Ça n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est se regarder soi-même et de dire voilà, est-ce que le culte que j'offre à Dieu, est-ce que Dieu l'agrée? Est-ce que c'est comme ça que Dieu le veut? Voilà. Et je veux qu'ici, et je crois qu'ici, on cherche à honorer le Seigneur. On n'est pas là pour chercher à faire mieux ou plus que les autres. On est là parce qu'on veut honorer notre Seigneur. On veut qu'il agrée. Qu'on chante bien ou qu'on chante mal, ce n'est pas ça qui est important. Dieu, ce qu'il voit, c'est est-ce que le cœur est selon la parole de Dieu? Est-ce qu'on se soumet à sa parole? Et ça, il le voit. Donc, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide jour après jour, dans notre vie personnelle, examinons notre cœur, que chacun s'examine lui-même pour voir s'il est dans la vérité ou dans la foi, dit l'apôtre Paul. Nous voulons honorer notre Seigneur en agissant selon ses commandements, examiner nos voies pour voir si on est dans la vérité, cherchons à plaire à notre Dieu plutôt qu'aux hommes et portons bien haut le nom de notre Seigneur en accomplissant la tâche que Dieu nous a confiée, et c'est comme ça aussi que nous l'honorons. Quand David a achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, le texte dit qu'il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on termine avec un repas fraternel et puis chacun repart avec quelque chose. Mais c'est ça la communion fraternelle. Et lorsqu'on fait les choses selon Dieu, c'est comme ça que ça se termine. Dans la joie, dans le partage, dans l'amour Et puis, voilà, on repart chacun dans sa maison et on est content, on a passé un très bon moment. Gloire à Dieu, on a eu un bon culte. Gloire à Dieu. Parce qu'on sait qu'on a fait les choses comme Dieu l'a voulu. Donc, que ça soit ainsi pour nous et que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Je ne veux pas être pour avoir les gens, une église remplie et puis faire les choses pour plaire aux gens. On est là pour faire les choses selon la parole de notre Dieu, pour l'honorer comme il nous le demande.